Chapitre 6. Les grandes douleurs morales, comme les fatigues du corps, vous laissent si écraser de lassitude que l'esprit est incapable de former un désir et les membres de s'agiter pour une action. Celui dont le sang ou les larmes ont longtemps coulé trouve même un certain bonheur dans l'hébétement qui succède à la cuisson de ses blessures ou au déchirement de son âme. Il faut avoir bien pleuré pour éprouver que gémirait doux. Grâce à cette période que j'appellerai le désespoir réfléchi, qu'était vite arrivée la vie d'Henri, le pauvre Jules, dont en un seul jour, le malheur avait ravi tous les amours, toutes les espérances, comme en une nuit un loup affamé emporte tout un troupeau. Comme elle s'ouvrit pour lui triste et vide cette vie humaine qu'il avait entrevue si belle à l'aurore. Où était la passion qu'il avait rêvée, la gloire qu'il avait cru tenir? Parti, parti, parti avec la troupe des cabotins qui avait laissé des dettes à l'auberge. Plus sobre et plus abattu que le lendemain d'une orgie, les événements passés lui faisaient l'effet d'un de ces rêves sans nom où l'on a vu des beautés surhumaines et des splendeurs inouïes, et dont le souvenir vague est un supplice. Quand il eut bien monté et descendu dans le récit intérieur de tous les jours et de toutes les minutes qui s'étaient écoulées depuis le matin où il avait rencontré Bernardi jusqu'au soir où il était rentré chez son père avec la mort dans les entrailles, quand il eut considéré tout cela dans son ensemble, pris un à un chaque détail, il recommença encore une fois, une autre encore et toujours ainsi, comme une galerie au tableau que l'on reprend par le bout, s'arrêtant à chaque fait, à chaque forme, à chaque sourire qui lui revenait à l'esprit, à chaque parole, à un certain pli de vêtements, et se repaissant à loisir jusqu'à ce que la satiété lui fit réclamer une autre amertume à goûter. Il ne fermait les yeux qu'avec les deux mains et tâchait de se représenter Lucinde ou de se rappeler le son de sa voix. Il retournait souvent sur cette route qu'il avait parcourue en courant à sa poursuite. Il s'accoudait sur ce pont où la mort l'avait tenté, s'efforçant de ressaisir la trace des émotions qu'il avait eues. Il s'arrêtait dans la côte au même endroit. Il prêtait l'oreille au bruit des mêmes feuilles qui bruissaient toujours. Et tous les soirs, en revenant de son bureau, car il y était retourné, comme naguère il écrivait sur le même pupitre, il passait sous les ormes où elle se tenait souvent assise, et chaque jour avec l'espoir, inavoué à lui-même, de les y retrouver peut-être. Autour de lui, hors de lui, tout était de même qu'autrefois. Parents et connaissances, vêtements et meubles, tout était pareil à ce qu'ils étaient. La nature extérieure a une ironie sans pareille. Les cieux ne se couvrent pas de nuages quand notre cœur est gros. Les fleurs parfument l'air quand nous le remplissons de nos cris. Les oiseaux gazouillent et font l'amour dans les cyprès sous lesquels nous enterrons nos plus tendrement aimés. Il se mit donc à détester les hommes, puisqu'il avait un besoin immédiat de haine et de colère. La leur cachant par mauvaise honte, il n'employait pas cette haine par faiblesse. L'amour lui ayant manqué, il nia l'amour. Et comme c'était à cause de la poésie qu'il avait été trompé, il y renonça, la regardant comme un mensonge. Du reste, on trouvait qu'il était devenu plus sage et les hommes mûrs le regardaient comme moins emporté dans la discussion. Son chef de bureau même était charmé de lui. Il faisait de la besogne en su de sa tâche. Il travaillait avec acharnement, comme pour se dégrader à plaisir et rire de lui-même. Quelquefois, cependant, il se redressait tout à coup, se grandissant subitement de toute la profondeur de son abaissement, et s'exagérant sa force par défaut de perspective. Pour trouver quelque chose d'analogue à ce qui se passait dans son âme, il chercha dans les poètes et dans les romanciers une situation semblable à la sienne, un caractère comme le sien. Mais ce qu'il voyait partout manquait, pour effectuer la ressemblance, de la précision qui fait ressortir le dessin, du détail qui le colore, enfin, de cette particularité dont il était en quête. Il croyait que rien n'approchait de sa douleur, que toutes les autres étaient bornées, que la sienne seule était infinie. Il relut René et Werther, ces livres qui dégoûtent de vivre. Il relut Byron et rêva la solitude des grandes âmes de ses héros. Mais son admiration se ressentait trop de cette sympathie personnelle qui n'a rien de commun avec la contemplation désintéressée du véritable artiste. Le dernier terme de ce genre de critique, sa plus sotte expression, nous est fourni chaque jour par quantité de braves gens ou de dames charmantes s'occupant de littérature, qui blâment tel caractère parce qu'il est cruel, telle situation parce qu'elle est équivoque et un peu graveleuse, trouvant en dernier mot qu'à la place de tel personnage, il n'aurait pas fait de même, sans rien comprendre aux lois fatales qui président à la formation d'une œuvre d'art, ni aux déductions logiques qui découlent d'une idée. Cette confusion de ses douleurs personnelles avec l'idéal des poètes les embellissait trop pour qu'elles ne lui fussent pas précieuses, alors même qu'elles diminuèrent. C'était comme le soleil qui montre des perles dans chaque goutte de pluie, fait des diamants avec les cailloux. Aussi le souvenir de ce temps-là resta-t-il toujours dans sa mémoire, comme l'époque de sa vie poétique par excellence, l'âge d'or de son cœur. Plus tard, quand il fut un homme, il repensa souvent avec une indulgence facile, de même que les peuples vieillis prennent plaisir à revoir dans l'histoire des temps éloignés où ils vivaient du gland des chênes et dormaient sous les tentes. Il se résigna donc et vécut plus calme dans l'espoir d'une mort prochaine. Décidé à mourir, la vie lui parut plus belle. Il lui souriait tristement comme à la suite des longues maladies. Il médita son suicide, ce qui l'occupa pendant 6 mois, puis il le voulut d'une autre façon, ce qui acheva l'année. Au bout de ce temps, il avait pris l'habitude de l'ennui et ne songea plus à s'en aller. Les jours et les nuits s'écoulaient pareillement tristes, dans la monotonie des mêmes actions, des repas revenant à la même heure, de la toilette à faire tous les matins et à défaire tous les soirs. Tout ce qui intéresse les hommes lui était fort égal. Tout ce qui les indigne le laissait froid. Les amants s'en allant sous la feuillée, les soldats partant à la guerre, le savant sur son livre, le penseur rêvant son œuvre, l'âne portant son bât, le juge rendant la justice, le valet qui vole son maître et le maître qui exploite le valet, qu'est-ce que tout cela lui faisait? La vie humaine lui faisait l'effet d'un bal masqué, où l'on se pousse et où l'on crie, où il y a des pierrots vêtus de blanc, des arlequins, des dominos, des femmes honnêtes qui attendent l'aventure, des femmes galantes qui la provoquent, des marquis râpés, des rois qui se pavanent, des imbéciles qui se divertissent, une foule de badauds qui regardent. Lui, il était dans un coin à s'ennuyer, sans vouloir soulever les masques ou monter du haut du théâtre pour jouir de l'ensemble. Il savait bien, cependant, que pour être heureux, il faut se mêler à la danse, prendre un métier, un état, une manie, une marotte quelconque, et en faire secouer les grelots, s'adonner à la politique ou à la culture des melons, peindre des aquarelles, réformer les mœurs ou jouer aux quilles. Mais il n'avait pas le cœur à tout cela, et la moindre tentative pour entrer dans la vie positive lui donnait des nausées, en même temps que la vie spéculative le fatiguait et lui semblait creuse. Enseveli dans cette paresse, plus immobile et plus froid que les marmottes qui dorment sous la neige, il resta insensible aux exhortations et raisonnements d'Henri quand celui-ci revint au pays pour y passer les vacances. Combien même il sourit de pitié en voyant son ardeur juvénile, sa conviction d'être heureux et son amour pour la belle dame de Paris. Mais il avait pourtant été comme cela, lui. Il avait eu aussi des emportements et des exaltations en parlant d'une boucle de cheveux ou de la forme d'un ongle. Mais comme c'était vieux déjà, comme il avait grandi depuis, comme son état actuel, tout maussade qu'il fût, était supérieur à celui-là, il n'aurait pas voulu en changer, car sa douleur, croyait-il, n'était pas une douleur commune, et si l'immensité en était effrayante, c'est qu'il n'y avait pas de borne au cœur qui la contenait. Quand Henri lui parlait des rendez-vous que sa maîtresse lui donnait et lui en détaillait les joies, Jules le laissait dire, lui répondant par des monosyllabes. Quand Henri lui lisait les lettres qu'elle lui envoyait, car il s'écrivait souvent, Henri adressait les siennes à Mademoiselle Aglaé et Madame Émilie les adressait à Jules. Celui-ci faisait semblant d'admirer, mais en lui-même il trouvait le style détestable, les épithètes saugrenues et le français fort équivoque. Qui sait pourtant s'il n'aurait pas été bien aise d'en recevoir de pareils. Il n'y avait pas moyen qu'Henri causât d'autre chose. Jules savait par cœur tous les appartements de la maison du père Renaud, toutes les robes de Madame Renaud, y compris les camisoles et les chemises de nuit. Henri aurait voulu le voir heureux comme lui. Jules espérait qu'il arriverait un jour à prendre tout cela en pitié. Quelquefois, il se demandait ce qui serait arrivé pourtant si Lucane l'avait aimé et les lettres sublimes qui lui auraient écrites, les ardentes phrases qu'il lui eût débitées à ses genoux. Mais Henri ne retournait pas vers le passé et ne rêvait pas d'une autre couleur qui n'était venue, car il n'y a que les malheureux qui s'exercent l'imagination de ces choses-là. L'amour avait embelli son front, d'emblée s'être élargi et son regard développé. Toute sa taille était devenue robuste et souple, une confiance sereine respirait dans ses mouvements. Il avait l'air de l'homme aimé. Jules, au contraire, s'habillait d'une façon stupide, il portait des habits sans boutons et des chapeaux trop larges. Quelle joie pour nos amants de se revoir après 2 mois d'absence. Madame Renaud les avait passés bien tristement, loin du cœur qui comprenait le sien et des yeux où elle aimait à se mirer. Les murs de sa chambre avaient entendu, sans doute, bien des soupirs mélancoliques, et si sa vitre eût pu parler, nous eussions su de quel tendre regard elle suivait les nuages qui voyageaient vers le pays du bien-aimé, tel qu'une châtelaine au bord de sa fenêtre à ogive et rêvant au troubadour parti à la croisade. Elle comptait les jours sur son calendrier, écrivait une lettre en attendant une autre, relisait les anciennes. Elle allait dans l'appartement d'Henri et contemplait à loisir les rideaux, le parquet, les chaises, le lit, tous ces muets témoins de leur bonheur. Mademoiselle Aglaé était venue souvent la voir. Il n'y avait rien de caché pour elle. On lui confiait tout, ou du moins on lui laissait tout deviner. Et quand les aveux étaient faits, on la priait de venir en aide. Elle s'y prêtait de bonne grâce. C'était une femme née pour cela. Elle connaissait tant de comédies et savait par cœur si bon nombre de poésies amoureuses qu'elle eût pu donner des leçons pour conduire une intrigue ou faire un mariage, depuis la présentation ou la première entrevue jusqu'au dénouement. On rencontre ainsi dans le monde de ces créatures vite expérimentées, qui possèdent comme une science toutes les astuces de la vie, sans avoir jamais agi pour elles-mêmes, et toutes les finesses de l'amour sans avoir aimé. Elles se mêlent de tout, voient tout, dépensant leur activité en intrigue, soulèvent des passions, excitent des haines, vous torturent pour s'amuser, vous repoussent par orgueil, vivant dans les désirs et mourant vierge. Et Mademoiselle Aglaé était de cette race. Elle avait l'air d'une coquette, elle en savait plus qu'une fille, et c'était une prude. Les bagues qu'Émilie et Henri s'étaient échangées, c'était elle qui les avait commandées. Elle avait choisi le peintre pour leur portrait, et leurs lettres passaient par ses mains. Mais si elle en respectait scrupuleusement le cachet, une fois lues par son amie, elle se les faisait lire et relire, les aimant presque autant que si elles lui eussent été adressées. Elle était si bonne pour eux, si intelligente de tous les caprices, que quelquefois elle restait entière dans leur tête-à-tête, de sorte qu'Henri, au lieu de faire la cour à une femme, la faisait à deux. Il fallait bien en effet lui dire quelque chose, quelque douceur, et Mademoiselle Aglaé aimait beaucoup ce jeu qui plaisait moins à Madame Renaud. « Elle nous est bien dévouée, » dit celle-ci à Henri le lendemain de son retour. « Mais je ne veux plus qu'elle vienne quand tu seras là. Oh, je ne veux pas qu'un autre que toi entende ce que je te dis. Elle restera quand il aura du monde, d'autres personnes, quand nous ne serons pas seuls. » Elle s'informa de ce qu'il avait fait pendant ses vacances. « Où allais-tu pour lire mes lettres ?»« Moi, je m'enfermais dans ma chambre et puis je les cachais sur mon cœur. » T'as t'en demandé si tu avais une maîtresse? Qu'as-tu répondu, Henri? A-t-on voulu savoir si elle était belle? Elle lui fit jurer ensuite qu'aucune autre lui avait plu et que le souvenir de son Émilie, comme un talisman infaillible, l'avait gardé de toute séduction, ce qu'Henri jura 20 fois, car elle lui demandait souvent, non pas qu'elle le soupçonnât d'aucun oubli, mais pour être plus sûr. Le premier et les 15 de chaque mois, il y avait toujours réunion comme l'année passée. Les mêmes personnes s'y rendaient, et ces jours-là, Émilie était plus triste. « Je n'aime pas, » disait-elle, « qu'il y a tant de monde autour de nous. Ah, pourquoi me faut-il le souffrir? Comme toutes ces figures me pèsent et m'ennuient, comme ces femmes sont folles et vaniteuses, n'est-ce pas? Elles te plaisent à toi? Tu les aimes, oui, elles te regardent, elles cherchent à t'attirer. » Elle le regardait avec ses grands yeux noirs langoureux. « Mais j'ai tant peur de te perdre, vois-tu. Je n'ai plus rien à espérer maintenant qu'à continuation de ton amour. C'est pourquoi je crains tout. Tout me fait ombrage. Je me dis, il m'aime et demain m'aimera-t-il? Peut-être qu'une autre plus belle ou plus ardente. » Tais-toi, tais-toi, disait Henri, égaré comme au premier jour de cette passion. Tu sais bien que non, tu l'avouais tout à l'heure. Elle doit être si fière, la femme que tu aimes. Ton amour est comme une couronne, il faut penser à ceux qui nous envient. Mais qu'est-ce qui te l'envie? Mais tout le monde. Ou tout le monde peut me l'envier. « Tu ne sais pas comme moi, enfant, toutes celles qui te convoitent, je les observe, ah, mais fie-toi d'elles. »« Mais tu te trompes. »« Oh non, oh j'ai raison et bien raison. Et puis qui ne céderait pas? Tu es si beau, si doux, ta voix surtout. » Et elle le serrait sur son cœur dans une tendre étreinte qui semblait triste. D'autres fois, Henri venait à elle, elle le repoussait. Non, ne m'aime plus, je ne veux plus t'aimer. Oh, je te rendrai trop malheureux, je te ferai mourir. » Puis se reprenant tout à coup, comme si elle eût commis un crime. Oh non, 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 aime-moi au contraire, aime-moi comme tu m'aimes, plus encore de toute ton âme. Ne me laisse pas seul, car quand tu n'en sais plus là, mon cœur est vide, ne m'abandonne pas, car je mourrai. Leur passion, longtemps fermentée, commençait à s'aigrir comme les vieux vins. Arrivés à un certain degré, tous les sentiments, même les plus doux, tournent au sérieux, comme les idées les plus graves tournent au grotesque. Émilie devenait plus absolue et plus dure même dans sa tendresse. Henri, de jour en jour, se sentait dominé par elle. Elle lui commandait, il obéissait. Éprouvant du plaisir de se laisser aller aux mains de cette femme, dont l'amour, chaque jour plus fort, l'envahissait comme une conquête. Elle remplaçait pour lui toute affection et tout sentiment. Elle le soignait, l'habillait, lui arrangeait les cheveux, et choisissait la couleur de ses habits comme une mère fait de son jeune fils. Elle le conseillait, le surveillait comme un père et lui confiait ses projets, ses espérances comme à un ami. Elle l'engageait à suivre une ligne droite et à faire vite son chemin dans le monde. Il fallait, quand il sortait de la maison, qu'il lui indiquât l'heure précise où il rentrerait. Et s'il tardait un peu, elle avait des angoisses mortelles, qu'il eût été écrasé par une voiture, mordu par un chien enragé, ou qu'il se fût noyé en passant les ponts. Quelquefois, vers le matin, quand Henri, couché à ses côtés, s'était endormi de fatigue, l'immobilité de ses traits assoupis l'effrayait tout à coup. Elle se penchait sur ses narines pour écouter son souffle. Elle avait peur qu'il ne fût mort. Cette idée-là la poursuivait souvent. « Oh, si tu m'échappais, disait-elle, si tu étais malade, si tu mourrais, mais que deviendrais-je ? » Un jour, en se promenant ensemble, ils passèrent près d'un cimetière et elle pleura. Les femmes n'aiment pas la mort. Cet amour profond du néant que les poètes de notre âge portent dans leurs entrailles, elle sort des frais. L'être qui donne la vie se courrouce de ce que la vie n'est pas éternelle. Ne leur dites pas que vous aimez les orbites creux des crânes jaunis et les parois verdâtres des tombeaux. Ne leur dites pas qu'il y a en vous une aspiration énorme de retourner à l'inconnu, à l'infini, comme la goutte d'eau qui s'évapore pour retomber dans l'océan. Ne leur dites pas, ô penseur au front pâle, de vous accompagner dans votre voyage, ni de gravir la montagne avec vous, car elles n'ont pas l'œil assez sûr pour contempler les précipices de la pensée, ni la poitrine assez large pour respirer l'air des hautes régions. Mais ce n'est pas là ce qu'Henri lui demandait, encore moins ce qu'elle demandait à Henri. Elle lui demandait de ne plus fréquenter Morel, car Morel était un homme qu'elle détestait. Il riait toujours, il plaisantait sur tout. Elle lui demandait de ne pas aller au spectacle, de ne pas être longtemps absent de la maison, de ne pas danser quand on dansait, car il avait appris de se dire alors malade ou fatigué et de rester assis à côté d'elle. Elle devenait jalouse, jalouse de Mademoiselle Aglaé, de Madame Hortense, de Madame Lenoir, de Madame Dubois, jalouse de toutes les femmes, des plus vieilles et les plus laides. Quand elle était venue chez elle, elle accusait Henri de les avoir trop regardées ou de leur avoir trop parlé. « Mais tu ne veux donc plus de moi, disait-elle, mais que t'ai-je fait ?» Et quand Henri lui avait prouvé par 100 caresses qu'elle s'effrayait à tort, « C'était pour voir si tu m'aimais encore, disait-elle, car je sais bien que tu m'aimes toujours. » Elle l'engageait aussi, depuis quelque temps, à parler plus souvent à M. Renaud et à reprendre avec lui les longues conversations de l'année passée. Il fallait se faire aimer encore plus fort et le circonvenir tout à fait, afin de le tromper plus facilement. « M'abaisser à faire semblant d'être son mari, répondit Henri. Ah non, jamais, il me dégoûte. N'est-il pas ton mari, d'ailleurs? Tu lui appartiens. » « Non, c'est à toi, reprenait-elle en l'entourant de ses bras, à toi et pas à un autre. » « Mais tu lui as appartenu, toutefois. Avant moi, il t'a eu, il t'a possédé en maître. » « Oh, mais pas comme toi, ami, oh, pas comme toi. » « Mais qu'importe, je dois le haïr. À ma place, tu ferais de même. » « Eh bien, je le hais, car j'en suis jaloux de cet homme. Il peut t'aimer, celui-là, et te le dire devant tout le monde. » Il se sentait, en effet, pour lui, de ces mouvements de haine qui vous poussent aux grandes colères quand ils sont trop contenus. La figure du père Renaud, qui naguère lui pesait assez, lui déplaisait maintenant à outrance. Il s'indignait de la grossière familiarité de ce rustaud, qui tutoyait sa maîtresse et l'embrassait devant lui, sans qu'il pût se ruer dessus ou lui cracher au visage. Quelquefois, en effet, il venait à l'esprit d'Henri des doutes terribles. Il se figurait Émilie dans sa chambre, comme elle était chaque soir, avec sa lampe de nuit dont la lumière tremblotante, passant à travers la porcelaine, blanchissait les rideaux blancs, comme lorsqu'il y venait, retenant son haleine et se glissant le long des murs. Et là, tout à coup, à sa place, il se figurait le père Renaud, s'approchant, riant de son ignoble sourire, s'approchant encore et l'embrassant sur ses lèvres. Les mêmes mots qu'elle lui disait, il pensait qu'elle pouvait les lui dire à cet autre homme. Il se rappelait ses caresses, ses tressaillements, ses délires, et il s'avouait avec terreur qu'il avait pu avoir tout cela comme lui, qu'il les avait peut-être encore et que cela durerait toujours. Alors la rage lui prenait l'âme, et il fouillait avant dans ce doute amer, désireux d'y trouver des sujets de haine et des tortures nouvelles. Jadis, il se faisait l'amour sans crainte et sans angoisse. Sûr d'eux-mêmes, ils s'abandonnaient au plaisir d'aimer sans prévoir les obstacles et les dangers. Mais depuis quelque temps, ils étaient pris tout à coup de terreurs subites qui les faisaient pâlir. Le cri d'une porte, un bruit de pas, le vent dans les arbres, l'air qui siffle dans la serrure, tout leur faisait peur. « Oh, c'est lui !» se disait-il toujours. « Oh, nous sommes perdus !» Ils étaient devenus timides et superstitieux. Ils s'inquiétaient de leurs songes et tâchaient d'y découvrir un sens caché qui pût les éclairer sur leur avenir. « Tu te marieras !» disait quelquefois Émilie à Henri. « Tu aimeras une autre femme, tu m'oublieras. » « Et toi, reprenait-il avec amertume, penses-tu que ton amour soit plus durable qu'un autre ?»«
Oh, celui-là durera autant que moi, disait-elle. Et c'est ma vie, mais c'est le tien qui cessera le premier. »
À force de s'entendre répéter cette répétition, notre héros s'en effraya, et comme sa vanité s'en révoltait par avance, il se surveillait lui-même et s'excitait à cet amour déjà si enraciné dans son cœur. Il avait mille scrupules curieux, mille délicatesses. Le désir porté vers une autre femme lui semblait un vol et un sacrilège. Il s'en gardait comme du diable, vouant à sa maladresse un culte exclusif et entier. Il savait bien, néanmoins, qu'il y en avait de plus belle qu'elle dans le monde, mais aucune belle de la même manière, aucune aussi belle pour lui. Il eût voulu que la longue bergère de tapisserie où elle s'asseyait dans la journée eût été faite exprès pour elle et donnée par lui, que le tapis où elle marchait pieds nus, un autre n'y jeta pas les yeux, que sa bouche même, lorsqu'elle s'ouvrait pour les mots les plus simples et les plus nuls, ne s'ouvrit que pour lui seul, que toute sa vie en un mot eût été comme une mélodie secrète et particulière qu'il eût composée avec ses mains. Jadis, dans les premiers temps de leur union, ils s'étaient fait la confidence de toute leur vie. Ils l'avaient voulu tous deux pour se connaître plus intimement jusque dans les profondeurs de leurs pensées et que leur cœur leur fût ouvert jusque dans ses fondations et dans ses ruines. Henri lui avait raconté son amour d'enfant, à 7 ans, pour la petite fille qui jouait avec lui, son autre amour pour une autre dame qu'il avait croisée dans la rue, puis sa passion plus longue pour la marchande de corsets devant laquelle il passait en allant au collège, et son bonheur facile sur le sein des filles publiques, et tous ses rêves et tous ses désirs. Quant à Émilie, elle n'avait pas tant aimé, quoiqu'elle fût plus vieille. Elle s'était mariée jeune, M. Renaud, qu'elle avait cru adorer, disait-elle, parce qu'il la trouvait jolie. Mais bientôt, veuve de ses illusions, elle s'était trouvée dans une solitude affreuse. C'est alors qu'un homme s'était présenté, un homme qu'elle ne nommait pas, celui-là, elle l'avait aimé. Il était parti, elle n'y pensait plus. Oh, il y avait si longtemps de cela. Il y avait 10 ans. Comme il reste toujours, même dans les confidences les plus sincères, quelque chose qu'on ne dit pas,
Il est probable qu'elle avait plus éprouvé dans la vie qu'elle n'en avait raconté. Mais, fût-ce la pudeur, l'amour ou l'inexpérience à parler de ces matières, qui l'avait empêché d'en dire davantage. Or, les jours qui n'étaient pas heureux, oh, cela arrivait quelquefois maintenant, sans cause extérieure ni sans motif. Il se reprochait ses aveux et s'accusait l'un l'autre de les avoir faits incomplets. « Tu l'aimes encore, » dit-elle. « Mais ce que j'y pense, ne mens pas, Henri. Tu rêves à elle, tu la regrettes. « Qui donc ? Que sais-je, moi, celle ou une de celles que tu as aimées ? Mais je n'aime que toi, tu le sais bien, je n'en ai jamais aimé d'autres. « Est-ce vrai, enfant ? » disait-elle en clignant des yeux, « est-ce vrai ? » Et elle s'approchait de lui. « Tu le demandes ? » disait-il en entourant de ses bras et l'attirant sur son cœur. « Répète-le donc, dis-le-moi toujours. » Ou bien c'était elle qui était pensive et soupirait. « Qu'as-tu ? » disait Henri. « Oh, je n'ai rien, laisse-moi. »« Oui, je te laisse. Allez, pense à lui, va. »« À qui ? » ?»« Mais que sais-je ? » ?»« M'as-tu seulement dit son nom ? Tu me caches tout. »« Lui, grand Dieu, oh, qu'il soit maudit si jamais j'y songe. »« Comme tu me maudiras plus tard. » Quand un autre me rappellera ta pensée. Peux-tu le croire, est-ce vrai? Railles-tu? Et elle le regardait fixement, dardant sur lui sa prunelle enflammée. Oh, dis-moi que tu ne le pensais pas, Henri. Vite donc, dis-le, j'attends. Henri l'avait peut-être pensé 5 minutes avant, mais il ne le pensait plus 5 minutes après. Voilà comme une vague angoisse les tourmentait dans leur bonheur. Ils avaient de tristes pressentiments auxquels succédaient des retours d'espoir. Ils ne riaient plus, même seuls et se parlant bas. Ils n'osaient plus sortir dans Paris de peur qu'on les surprît ensemble. Émilie ne raillait plus M. Renaud, qu'elle tracassait pourtant toujours un peu quand il était question de Mme Lenoir. Henri lui-même ne pouvait découvrir si cette jalousie était feinte ou réelle, tant elle mettait de persistance à en parler devant son mari et à s'en taire quand il n'était pas là. Les journées s'écoulaient ainsi, mais les nuits toujours âcres et brûlantes. Elle lui semblait chaque fois plus belle, elle avait des variétés de volupté où son amant ne trouvait prix, comme dans des trahisons successives. Il sentait qu'il l'aimait jusque dans ses entrailles et qu'elle l'appelait à lui d'une force invincible. Parfois, il se débattait sous ses liens, mais il retombait toujours. C'était une séduction qui grandissait à la contempler, un vertige qui l'attirait. Pendant qu'Henri, le cœur navré d'amour, tour à tour sombre et soyeux, ennuyé par moments et enivré par d'autres, contribuait à vivre dans cette maison, dont les murs, en passant près d'eux, lui renvoyaient des réfractions chaudes, intelligentes de ce qu'il sentait. Jules commençait à apprendre l'hébreu et s'efforçait aussi à lire le grec. Sa table était surchargée de livres, histoire, atlas, voyages, album d'antiques gravures d'après les grands maîtres, poètes anciens en un petit volume, savants modernes en plusieurs gros in-folio. Oh, il ne lisait pas tout cela, mais il rêvait dessus. Comme les gens auxquels il eût pu confier ses peines ne les auraient pas comprises, en même temps que les natures assez intelligentes pour sympathiser lui manquaient, il avait fallu d'abord se résigner à une solitude complète et vivre pour lui seul, en lui seul. Aussi les phases diverses de son existence s'accomplirent-elles sous les yeux de tous, sans que personne y vît rien, car les plus grandes péripéties de ce drame tout psychologique ne s'étendirent pas au-delà des 20 et quelques pouces de circonférence qu'avait sa tête.
Sevré, jeune d'illusion et y croyant encore, privé de plaisirs bruyants et ennuyé de rêver, distraction paisible, il lui arriva un jour de se prendre en pitié, lui et tout l'attirail de sa vie, de vouloir sortir enfin de l'espèce de prison invisible où il tournait sur lui-même comme un ours dans sa cage. Comme il était fatigué de la pensée ou de ce qu'il croyait elle, il voulut goûter de l'action. Ainsi, chaste, il voulut tout à coup la volupté. Né bourgeois, il désira la richesse. Fait par le ciel plus doux que les agneaux, il s'éprit du bruit des clairons et médita le choc des armées. Il aima donc toutes les passions, appela à lui tous les appétits, toutes les aspirations, toutes les convoitises. Elles arrivèrent vite l'une après l'autre, comme autant de cavales sauvages qui galopent à l'aise, hennissantes et la crièrent au vent, dans la large plaine de son cœur. D'abord, ce fut l'argent. Il l'aima comme un prodigue et comme un voleur pour avoir des grands gazons ombragés de chênes circulaires, des forêts où des chevreuils courent sur les mousses, un palais à péristyle de marbre, avec des statues antiques et une galerie de vieux tableaux, une serre chaude où les palmiers poussent en pleine terre, où l'on peut sentir les aloès et les cactus, manger des fruits inconnus, toucher des feuillages tout étranges. Pour avoir un étalon noir avec un cordon d'or dans la bouche et une peau de lion sur le dos, monté par un nègre athlétique en jaquette de soie rouge à fermoir d'argent, nu bras, nu jambes, à forme magnifique et à allure puissante. Pour avoir une foule de valetailles bien engraissées qui se tassent dans l'antichambre et vous versent à boire quand vous mangez. Pour faire du jour la nuit, prendre la glace en été, les fruits en hiver, se chauffer avec de l'acajou, se laver les pieds avec du kirsch, mener une vie insolente et dédaigneuse, se sentir adoré de la canaille et détester des bourgeois, nourrir une foule de gredins et éclabousser une masse d'imbéciles. Il eût voulu marcher dans une mine d'or pour sentir dans les entrailles de la terre les exhalaisons chaudes des métaux. Mais il ne pensa pas à en gagner, trop occupé à y rêver. Bientôt, son désir ayant acquis des proportions idéales, la vie moderne lui sembla trop petite, et il remonta à l'Antiquité pour trouver des sujets de plaisir et matière à convoitise. C'est là, pour la première fois, qu'il vit les coupes d'or ciselées reluire à la lueur des flambeaux et les frontispices des temples briller au soleil. Il ne pensa plus dès lors qu'à ces immenses festins qui éclairaient les ténèbres, où les rois chantaient avec leurs concubines, pendant que le vin coulait au bruit des instruments et que les esclaves criaient dans les supplices. Il comprit Caligula se roulant sur ses tas d'or et Cléopâtre buvant des diamants. Ils n'ont pas joui seuls, ces êtres venus pour étonner les hommes. Le rêveur frissonne encore à ses souvenirs du monde antique, retrouvant sans doute au fond de lui-même quelque chose de cette joie insensée et de ces spasmes d'orgueil. Jules s'amusait à ses songeries et, quand il était là, il en prenait d'autres. Lorsqu'il eut ses idées arrêtées sur la construction d'une maison et qu'il vit que celle d'un millionnaire est moins belle qu'une cabane de chaume avec des pampres et du raisin, lorsqu'il comprit que le confortable n'est que la misère honnête et qu'il eut amassé assez de haine contre les bottes fines et les gants blancs, il ne désira plus être riche, 1 million de rente lui paraissant à peine tolérable, puisqu'il n'eût pu, avec le double, se faire traîner par des tigres ou promener sur une galère à 3 rangs de rameurs, à voile de pourpre et à mât de bois odorant, avec des bouffons et avec des singes. Ayant donc renoncé à l'argent, il se tourna vers la femme, demandant à cet autre rêve le bonheur qu'il cherchait.
Il a voulu intact et pur comme le jour qu'elle sortit des mains de Dieu. Il se créa d'abord un type absolu, auquel il rapportait toutes les ressemblances qu'il apercevait dans le monde. Oh, il les rejetait vite, indigné, désolé. Il était en quête des plus longues chevelures, des torses les plus droits, des peaux les plus blanches, des poignets minces, des profils corrects. Il pensait toujours à l'éternelle beauté de cette créature, marchant nue sur les rivages des îles lointaines, au milieu des coquilles, sur un sable jaune. Il se la figurait dormant sous de grands arbres, couché dans un mât de bambou. Tous les rêves de beauté que les hommes ont faits successivement, à chaque année de leur jeunesse, il les fit, il les reprit à son tour, passant comme eux par toutes les variétés du désir, par toutes les formes du corps. Tout ce qu'ils ont eu d'ardeur furieuse et de mélancolique, d'amour, il les eut, il les sentit en lui, depuis ces regards intenses et doux que les pasteurs, dans la Genèse, versaient sur les filles de Sion, le soir au bord des citernes où ils menaient boire leurs troupeaux, jusqu'au baiser court et sec du talon rouge jusqu'à l'étreinte cynique du directoire. Il convoita tout cela, l'appelant à lui par la pensée, comme à son usage personnel. Vous le croyiez austère et continent, et il vivait avec la sultane voilée qui s'en va au bain dans son palanquin, portée par quatre nègres, escortée de quatre nuques, le sabre au poing. Il songeait aux ennuis du sérat et à ses longs yeux noirs qui brillent dans la coupure du voile blanc. Mais il aimait aussi les pâles figures d'Holbein, avec leurs yeux bleus et leurs cheveux blonds, mélancolie des vieux âges qui n'est plus la nôtre. Avec Horace, il rêvait à l'esclave ionienne qui danse au son des crotales et vous jette du falerne au visage. Elle a sur l'épaule une marque de dents que son maître lui a faite hier en lui promettant de la franchir. Comme elle s'entend à tourmenter les cœurs et à capter les héritages. De la passion grecque, sévère, gracieuse et soupirante, il entra dans l'amour romain, ce vieil amour chaud et cuit du latium, sentant la chèvre et la peau de bête, et qui s'en va à partir de César, se ramifiant à toutes les folies, s'élargissant dans toutes les lubricités, tour à tour égyptien sous Antoine, asiatique à Naples avec Néron, indien avec Héliogabale, sicilien, tartare et byzantin sous Théodora, et toujours mêlant du sang à ses roses, et toujours étalant sa chair rouge sous l'arcade de son grand cirque où hurlaient les lions, où nageaient les hippopotames, où mouraient les chrétiens. Il adorait la courtisane antique, telle qu'elle est venue au monde un jour de soleil, la femme belle et terrible qui bâtit des pyramides avec les présents de ses amants, devant qui se déploient les tapis de Carthage et les tuniques de Syrie, celle à qui l'on envoie l'ambre des Sarmates, les dronos du Caucase, la poudre d'or du Sennahar, le corail de la mer Rouge, les diamants de Golconde, les gladiateurs de Thrace, l'ivoire des Indes, les poètes d'Athènes. Il y a à sa porte, attendant qu'elle s'éveille, le satrape du roi de Perse, l'ambassadeur des Scythes, les fils de sénateurs, les archontes consuls, et des peuples venus pour la voir. C'est la créature pâle à l'œil de feu, la vipère du Nil qui enlace et qui étouffe. Elle bouleverse les empires, mène les armées à la guerre et s'évanouit sous un baiser. Elle connaît les philtres qui font aimer et les boissons qui font mourir, les mères en éprouvant leurs fils et les rois languissent pour elles d'amour. Et afin de reconstruire en entier ce souvenir perdu, il rêvait tout le jour à la folie de Salomon, au jardin de Sémiramis, à la galère qui fuyait à Axiom, à la lampe fumeuse de Messaline et à son capuchon de couleur fauve. Il méditait les mystères de l'atrium avec la colère de Juvénal et les orgies de l'Empire dans la haute phrase de Tacite. Dédaigneuse et discrète, blanche et fardée, la tête raide dans sa fraise à la Médicis, il vint ensuite à aimer aussi la grande dame du XVIe siècle, qui dit la reine de Navarre, va rire à Montfaucon en voyant le corps dépendu. C'est la vie de Brantôme, l'honnête demoiselle qui aime les mascarades, les pastilles à la vanille, les gants de Florence, parle italien d'une façon doucereuse et raffole en secret de quelques jeunes pages du roi, qu'elle débauchera bientôt et puis qu'elle tuera par jalousie, à moins qu'elle ne s'empoisonne de désespoir. Il chercha encore dans les romans du siècle dernier, dans les livres à tranches rouges et dans les brochures anonymes couvertes en gros papier gris, les histoires des libertins gaillards de Dancourt et des veuves suspectes, teneuses de Lansquenet. Il fréquenta fort les comédiennes du temps de la vieille comédie, les demoiselles à taille mince et à large panier, petites perfides au teint de rose qui ruinaient les traitants pour quelques bel esprits râpés qui leur faisaient des vers. Il fallait leur donner un gros cocher poudré, un attelage tous les 6 mois et un hôtel sur le boulevard. C'est du milieu de ce monde-là, pourtant, entre le priapisme de Piron et les fadeurs de M. de Bernis, que l'on fit des grieux pleurant aux genoux de Manon, et que Jean-Jacques écrivait sa nuit chez Madame d'Épinay. Et Jules alla jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Il passa par la sensualité étroite de Faublas, et eut pitié de ce vice en jupon qui se cache dans les voitures et derrière les portes, déshonorant l'adultère par la vulgarité de sa bassesse. Oh, il lui préféra 100 fois les monstruosités de Justine, cette œuvre belle à force d'horreur où le crime vous regarde en face et vous ricane au visage, écartant ses gencives aiguës et vous tendant les bras. Il descendit dans ces profondeurs ténébreuses de la nature humaine, prêta l'oreille à tous ses râles, assista à ses convulsions et n'eut pas peur. Et puis la poésie n'est-elle pas partout, si elle est quelque part? Celui qui la porte en lui la verra sur le monde, pareil aux fleurs qui poussent sur le marbre des tombeaux et sur les plus fraîches pelouses. Elle s'exhale vers vous du cœur de la Vierge et du sommeil de l'enfant, comme de la planche des échafauds et de la lumière des incendies. Arrivé à l'idéal de la matière, il prit la matière en haine, car cette exclusion de toute idée, cette négation de toute bonté l'irritait comme quelque chose d'essentiellement faux en soi, contrepartie isolée, monotone d'une autre chanson plus connue. Il était las de cette chair toujours heureuse et du mensonge perpétuel de son sourire. Il avait compassion des gens qui s'arrêtent là, assez naïfs pour n'en pas rire. Alors la virilité de sa nature s'épanouit comme une plante robuste. Il eut besoin de périls inutiles et de dangers à courir. Il aima les vieux casques des chevaliers, leurs longues épées lourdes qu'on soulève à 2 mains. Il frissonnait en touchant aux cuirasses bosselées que portaient les larges poitrines et sentait les appétits de bataille que le son des trombones fait courir dans nos membres. Le pas des régiments marchant sous ses fenêtres, le sabre des cavaliers battant sur les flancs de leurs chevaux et les grandes lignes d'hommes s'avançant dans les plaines. Il aimait tout cela comme un enfant. Il prolongeait sa veillée à lire dans Plutarque les guerres d'autrefois, où les héros, les armes brisées, combattaient les mains nues, montaient à l'assaut avec un poignard, et tombés sur le dos, mouraient la figure au soleil. Il suivit aussi les acclamations du triomphe d'Alexandre, les cris des hordes barbares accourant vers Rome, les Arabes galopant sur la plage d'Afrique, les partisans faisant la guerre dans la montagne. Et il regretta le temps où, la plume au chapeau et l'escopette au poing, on se découpait galamment, 6 contre 6, tous à cheval, armés de toutes pièces, jusqu'au dernier restant. Ce désir de valeur passée, ce fut la mer, pour entendre craquer la nature du vaisseau dans les nuits d'orage, pour écouter les coups sourds de la voile, ou bien, appuyé sur l'avant et sifflant dans la brise, regarder l'horizon où va apparaître un nouveau monde. Il lut encore l'imitation de Jésus-Christ et admira les vitraux peints des cathédrales. Au crépuscule, il se promenait dans la nef, marchant sur les dalles silencieuses, écoutant l'orgue et rêvant aux symphonies des séraphins. Il contemplait les visages placides étendus sur les tombeaux, en pensant à ces âmes qui ont passé leur vie ici-bas à colorier les pages des missels ou à tailler des têtes d'anges dans la pierre. Mais quand, abaissant ses regards de la voûte où résonnaient les cloches, il voyait les fidèles agenouillés, répétant leurs prières, un étonnement infini et comme un abîme de dérision s'élevait tout à coup dans son cœur. Voilà quelle était la vie qu'il menait dans sa petite ville, pendant qu'Henri, à Paris, menait la sienne chez Madame Renaud. L'un se laissait aller au courant de ses idées et l'autre au courant de son cœur. Jules ne s'amusait guère, mais il y avait certains jours, cependant, où il se délectait dans son égoïsme spirituel, comme un aigle dans les nuages. La masse d'amour que le ciel lui avait donnée, il ne la jeta pas sur un être ou sur une chose, mais il l'éparpilla tout alentour de lui, en rayons sympathiques, animant la pierre, conversant avec les arbres, aspirant l'âme des fleurs, interrogeant les morts, communiant avec le monde. Il se retirait petit à petit du concret, du limité, du fini, pour demeurer dans l'abstrait, dans l'éternel, dans le beau. Il aimait moins de choses à force d'en aimer davantage. Il n'avait plus d'opinion politique à force de s'occuper d'histoire. Il tâchait d'avoir pour la nature une intelligence aimante, faculté nouvelle avec laquelle il voulait jouir du monde entier comme d'une harmonie complète. Il projetait d'étudier la géologie pour se reporter aux époques où les mastodontes, les dinotériums possédaient la terre, alors que, sous des arbres gigantesques, vivaient des serpents monstrueux quand l'océan se retirait des collines et commençait ses oscillations cadencées dans son grand lit de sable. Il regardait les chênes balançant leurs rameaux et bruissant dans leur feuillage comme d'autres contemplent les cheveux qui flottent et les lèvres qui tremblent. Il mêlait, dans une méditation commune, leurs fourmilières, ces cités sonores, les génisses qui bêlent, les enfants qui pleurent, l'alouette qui chante et le ravin qui rugit. Il écoutait la voix des chats faisant l'amour sur la gouttière et leur cri de langueur douloureuse, comme la romance de l'amant à sa maîtresse, et tout ce que la bien-aimée répond à celui qui fait battre son cœur. L'histoire aussi lui offrait ses perspectives infinies. Tantôt c'était l'Inde, l'Inde antique et sacerdotale avec ses éléphants blancs et ses dieux taillés dans les souterrains, ou bien l'Égypte, sous la bouche sèche de son vieux Nil à l'ombre de ses granites, la Grèce en bantelette blanche, et chantant son hymne, ou bien les époques obscures où l'humanité, s'éveillant inquiète et douteuse, cherchait ses vieux dieux et en trouvait de nouveaux. Encore superficiel et obscur, tout à la fois ardent et paresseux, il allait malgré lui de telle idée à telle autre, s'arrêtant à une lettre et passant par-dessus une langue, plein d'hésitations et d'assertions, s'enthousiasmant pour un système ou pour une image. En faisant de l'analyse, il se préoccupait trop de la synthèse, de sorte que le détail lui échappait, et quand il en venait à l'assemble, les particularités le gênaient, se heurtant et se contradisant les unes les autres. Il croyait trop fort de son intelligence. Il avait les yeux plus grands que le ventre. Il s'habitua cependant à ne pas réclamer de l'idéal plus de clarté qu'il n'en a, de la vie humaine plus de bonheur qu'elle n'en comporte. Il eut du mal à se faire à ce rude régime, car il était né avec de grandes dispositions pour chercher le parfum de l'oranger sous les pommiers et à prendre des vessies pour des lanternes. Il avait entamé sa jeunesse par l'amour et il l'avait close par le désespoir. Il avait eu successivement toutes les passions, naïvement, sérieusement, mais au lieu de les faire jouer, elles s'étaient fondues elles-mêmes et dissipées dans une poésie impossible. Puis il avait vu qu'il faut laisser les passions à leur place et la poésie à la sienne, et il se mettait alors à étudier tout cela dans un ordre logique, sans se plaindre que les épines déchirent ni que la pluie mouille. N'aimant guère sa patrie, il comprit l'humanité. N'étant ni chrétien ni philosophe, il eut de la sympathie pour toutes les religions. N'admirant plus la tour de Nesle et ayant désappris la rhétorique, il sentait toutes les littératures. À l'époque où nous sommes arrivés de ce récit, il avait divisé sa vie en deux parts. Il s'occupait d'une histoire des migrations de l'Asie et de la composition d'un volume d'odes. Il avait pour son histoire un plan simple et fécond. Il la voulait tailler en larges masses, la diviser par groupes bien composés et dominer le tout par une unité puissante et réelle. Quant à ses vers, il travaillait à assouplir le rythme à tous les caprices de la pensée. C'était une couleur en relief avec des fantaisies saisissantes, une musique ailée. Volontairement et comme un roi qui abdique le jour qu'on le couronne, il avait renoncé pour toujours à la possession de tout ce qui se gagne et s'achète dans le monde. Plaisir, honneur, argent, joie de l'amour et triomphe de l'ambition. Il disait à son cœur de cesser ses orages et à sa chair d'amortir ses aiguillons. Chez lui, comme chez les autres, il étudiait l'organisme compliqué des passions et des idées. Il se scrutait sans pitié, se disséquait comme un cadavre, trouvant parfois chez lui comme ailleurs des motifs louables aux actions qu'on blâme et des bassesses au fond des venues. Il ne voulait respecter rien, il fouillait tout à plein bras. Jusqu'à l'aisselle, il retournait la doublure des bons sentiments, faisant sonner le creux des mots, cherchant sur les traits du visage les passions cachées, soulevant tous les masques, arrachant les voiles, déshabillant toutes les femmes, entrant dans les alcôves, sondant toutes les plaies, creusant toutes les joies. Aussi avait-il très peu d'illusions, quoiqu'il fût, direz-vous, dans l'âge classique des illusions. Il ne rêvait pas la femme éthérée, ni l'amélioration du genre humain, ni des amours d'Andalousie, ni des guitares dans des gondoles, ni d'un être qui comprît son cœur, ni croyance qui désaltéra son âme, et autre chose de même farine que l'on rencontre dans les feuilletons.